Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancière.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, ben, cette semaine, nous allons continuer de voir le livre de notre ami Dossier et qui a été donné au lycée impérial de Rodez en 1866, pour l'année scolaire 1866-1867. C'est la classe de philosophie et c'est le professeur qui a déterminé pour le premier prix d'histoire et géographie, et c'est signé Rodez le 8 août 1867. C'est-à-dire que le Second Empire n'avait plus très longtemps quand même à vivre. Alors, notre ami, si je puis dire, Dossier, était le proviseur. Il était, voilà, je vais retrouver ma page, et il était agrégé d'université et professeur de rhétorique. Alors, ce livre, Histoire de la littérature française, de Saussier, pardon, je crois que j'ai un peu abîmé son nom, et c'est la 4e édition, et il est édité à Tours par Alfred Mam et fils, éditeur, donc en 1868. Bien, alors, nous avons vu la semaine dernière les troubadours, on va les laisser se reposer tranquille, et puis, évidemment, on ne peut pas éviter Montaigne, ni la Boétie. Alors, pour Montaigne, voilà ce qui est dit dans ce livre. On va reprendre un tout petit peu sa jeunesse pour rafraîchir les mémoires, y compris la mienne. Alors, Michel de Montaigne naquit le dernier jour de février 1528 au château de Montaigne, en Périgord. Il fut tenu sur les fonds par des personnes de la plus basse condition et élevé dans un pauvre village qui appartenait à son père. Celui-ci voulait par là le dresser à la frugalité et à l'austérité pour qu'il eût plutôt à descendre de l'apothée qu'à monter vers elle. Son humeur, dit-il, visait encore une autre fin, de me rallier avec le peuple à cette condition d'homme qui a besoin de notre aide et estimait que je fusse tenu de regarder plutôt vers celui qui me tend les bras que vers celui qui me tourne le dos. Alors, cela est extrait des essais, bien sûr, de Montaigne qui donne la parole à son père. Alors donc, son éducation, mais l'éducation de Montaigne commença dès le berceau. Son père qui trouvait que c'est un bel et grand agencement, sans doute que le latin, mais qu'on ne l'achète trop cher. Il s'avisa d'un moyen plus économique, il donna à son fils en charge un allemand, du tout ignorant de notre langue, et très versé à la latine, et défendu à sa femme, jusqu'aux valets et aux servantes, de rien dire à l'enfant qu'en latin, au risque de lui parler peu. Ils latinisèrent ainsi tant qu'il en regorgera, jusqu'au village des environs où plusieurs dénominations de métiers et d'outils restèrent longtemps toutes latines. À 6 ans, Montaigne ne savait pas un mot de français, on lui donnait ses thèmes en mauvais latin pour les tourner en bon. C'était quand même une drôle d'éducation à cette époque. Mais bon, elle avait peut-être un côté de bon. Alors pour le grec, il l'a pris par forme débat et d'exercice, mais il avoue qu'il ne sut jamais très bien. Il faut en effet apporter quelques applications, un peu de rigueur et de contrainte. C'était précisément ce que ne voulait pas le père de Montaigne. Il désirait avant tout qu'on laissât son âme se développer en toute douceur et liberté, jusqu'à telle superstition que parce que d'aucuns tiennent que cela trouble la cervelle de tendre les enfants, de les éveiller le matin en sursaut, de les arracher du sommeil tout à coup et par violence. Il le faisait éveiller par le son de quelque instrument. C'était certainement quand même un bon réveil. Montaigne s'accuse modestement de n'avoir pas donné à son père tous les fruits qu'il devrait attendre d'une si exquise culture. Il s'en prend à deux choses. Premièrement, à son naturel si pesant, mot et endormi qu'on ne le pouvait arracher, à l'oisiveté, non pas par même pour le faire jouer, et secondement, la faiblesse qu'il eut son père de le rendre au collège, se laissant en cela emporter à l'opinion commune qu'il suit toujours ceux qui vont devant comme des grues. Voilà, pourtant, sous sa complaisance lourde, ils nourriront ainsi des imaginations hardies. Alors, tout ça se retrouve évidemment dans les essais. Alors, il y a, bien sûr, le personnage incontournable avec Montaigne, c'est la Boétie. Le Sarladais, la Boétie, et Montaigne est né dans le Bergerac. Alors, Parce qu'on nous dit de la Boétie, il n'y a qu'une chose où il n'est pas craint d'enfoncer, c'est l'amitié qui s'attacha de bonheur à Étienne de la Boétie, que nous retrouverons plus bas. Il se forma entre une de ces unions indissolubles que la mort seule peut rompre. L'âme de Montaigne semblait s'être concentrée tout entière dans ce sentiment. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». On retrouve bien sûr ça dans les essais. Il y a au-delà de tout mon discours, ce que j'en puis dire, particulièrement, je ne sais quelle force inexplicable et fatale médiatrice de cette union, nous nous cherchions avant de nous être vus, et par les rapports que nous aurions l'un de l'autre, se faisait à notre affection plus d'efforts que ne porte la raison des rappels. Je crois par quelque ordonnance du ciel, nous nous embrassions par nos noms. Et notre première rencontre fut par hasard à une grande fête en compagnie de la ville. Alors, ils étaient tous deux conseillers au Parlement de Bordeaux et se sont retrouvés à une fête, comme on fait actuellement, autrement dit, un pot. Voilà. Alors, notre première rencontre fut par hasard à une grande fête, comme je disais, compagnie de la ville. Nous nous trouvâmes si près, si cogneux, obligés entre nous de bien dès lors que nous fûmes si proches l'un de l'autre. Au reste, on rencontre tout dans Montaigne de fines critiques et observations pleines de bon sens sur les matières les plus graves et les plus futiles. Il n'emprunte à personne ses idées. Il ne relève qu'à lui-même dans un siècle où tant d'autres copient. Il est l'original et il met à profit tout ce qu'il a lu pour offrir des exemples. Voilà. Alors, il fait comme les abeilles. Elles pilotent ça et là sur les fleurs, mais elles en font auprès le miel qui ont tout le lieu, ce n'est plus de thé ni marjolaine. Il est frais par le nombre de ses citations, et pourtant il se plaît à chaque instant de n'avoir pas de mémoire. On pourrait douter de sa sincérité s'il n'avait donné le mot de cette énigme, à faute de mémoire naturelle, dit-il, j'en forge une avec du papier. Voilà, alors donc on va laisser Montaigne et la Boétie. Alors pour en revenir quand même à notre Saladé, la Boétie est le plus grand homme de son siècle, selon Montaigne, est moins connu de bien des lecteurs que ses propres ouvrages, par cette coutume d'amitié si étroite et jointe qu'il avait dressée avec l'auteur des essais. Conseiller du roi au Parlement de Bordeaux, estimé honoreux de tous ceux qui le connurent, plein d'affection tendre et de sentiments généreux, il vécut et mourut sans bruit et ne songea jamais à occuper public de ses talents. C'est à Montaigne que nous devons à peu près tout ce qui nous reste de ses ouvrages. Le plus célèbre est celui qui a pour titre « La servitude volontaire ». C'est le seul dont nous nous devions par la conservation à Montaigne. Ce n'est pas qu'il eut beaucoup d'estime et même d'admiration pour ce livre, écrit à l'honneur de la liberté contre les tyrans. Il le trouvait gentil et plein au possible. Mais il prévoyait déjà sans doute ce qui arriva plus tard, donc qu'on en abuserait en le prenant dans un sens contraire à celui de l'auteur. Voilà. Alors bien sûr, la Boétie, c'est le contre. Voilà. Alors, il y a un autre personnage, évidemment, célèbre, c'est Fénelon. Alors, voilà ce que Saussier nous en dit, donc de Fénelon. Alors n'oublions pas qu'il a écrit un livre entier sur Fénelon. Je pense qu'on en reparlera peut-être un jour. Alors voilà Fénelon. Alors Fénelon, François de Salignac de la Motte, naquit le 6 août 1651 au château de Fénelon en Périgord. Proche de Salignac, Martine Fénelon et de Louise de la Cropte, sœur du marquis de Saint-Abre. Puis d'abord élevé dans sa famille, et mis si bien le temps à profit qu'à 12 ans, il savait parfaitement le grec, écrivait en latin et en français avec élégance et facilité. Moi, j'ai eu du mal à prendre l'anglais. Bon, après, il avait certainement des facilités qui étaient autres. Voilà, il avait lu les grands écrivains qui ont illustré ces trois langues. Il put passer ensuite au collège de Cahors, il mûrit quelque temps dans la solitude des talents et des vertus. Il passa par là au collège du Plessis à Paris, puis au séminaire de Saint-Sulpice. Durant 5 ans qu'il resta dans cette maison, il ne songea qu'à cultiver son esprit, à former son cœur et à se rendre digne de tout l'état qu'il voulait embrasser. Il n'interrompit ses plus exercices que pour se livrer à de saintes lectures, et toutes ses pensées n'avaient qu'un seul objet, qui était Dieu. Mais en ne croyant faire qu'une étude approfondie de la religion, il épurait son goût et se formait rapidement à l'éloquence. Ainsi, lorsque, à 19 ans, il s'essaya pour la première fois dans le ministère de la parole, réussit même après Bossuet et Bourdaloue, mais son oncle, homme d'une probité sévère, redoutant pour lui des impressions dangereuses d'une gloire mondaine, l'obligea à se renfermer sur des fonctions plus obscures. Il fallait, dans l'âge où l'on est avide de succès, plein de sentiments et de force, que ce génie naissant rapidement ralentit son effort et descendu de sa hauteur. Voilà, alors, bien sûr, Fénelon a composé beaucoup d'ouvrages, et connaîtra, quand même une certaine déchéance. Et puis, on va passer rapidement. Alors, il a écrit quand même, on va donner le titre de quelques-unes de ses œuvres. Il a écrit le traité de l'existence de Dieu, qui est quand même un de ses livres majeurs, les lettres sur la religion, dont sont un complément naturel du traité de l'existence de Dieu, et il va écrire des sermons. Voilà. Alors, on nous dit, quoique Fénelon ait beaucoup prêché, il ne paraît pas qu'il ait beaucoup cherché la gloire d'orateur. L'admirable facilité qu'il avait de s'exprimer le dispensait souvent sans doute d'écrire ce qu'il voulait dire. Voilà. Alors il va traiter, bien sûr, il y a le traité de l'éducation des filles, qui est un livre qu'on peut lire, qui est assez intéressant, mais il faut quand même se replonger au XVIIe siècle. Alors il y a les aventures d'Aristonus, il y a le dialogue de Sylla et de Leucate, il y a le dialogue sur l'éloquence, qui est également à lire, l'examen de conscience sur les devoirs de la royauté, et il va, bien sûr, il y aura aussi le traité des ministères des pasteurs, l'essai philosophique sur le gouvernement, et puis il va y avoir des fables. Alors, ces fables sont assez intéressantes, ma foi, c'est pareil à lire, et des lettres. Alors, les lettres de Fénelon, je crois, on parie dans, je pense, 7 ou 8 volumes, ce qui fait quand même beaucoup. Alors, si on en revient au Télémaque, voilà ce que nous dit Saussier. Nous devons ce livre divin du siècle, comme l'appelle Montesquieu, à l'infidélité d'un valet de chambre qu'il écrivait sous la dictée de l'auteur et le fit imprimer furtivement. En 1698, lorsqu'il s'étendait point encore au-delà du séjour de Télémaque dans l'île de Calypso, on sait avec quelle rigueur cet ouvrage fut traité du vivant de Louis XIV. L'envie est cherchée, alors des malignes allusions. La postérité, plus équitable, n'y a vu que des leçons utiles du genre humain. Voilà, on reste ce qu'en dit Fénelon lui-même dans une lettre écrite en 1710 au père Le Pelletier. Pour Télémaque, c'est une narration fabuleuse en forme de poème héroïque, comme ceux d'Homère, de Virgile, où j'ai mis les principales instructions qui conviennent à un prince que la naissance destine à régner. C'est vrai qu'il fut le précepteur du futur roi de France, mais qui malheureusement décéda assez jeune. Je l'ai fait dans un temps où j'étais charmé des marques de bonté et de confiance dont le roi me comblait. Il aurait fallu que j'eusse été non seulement l'homme le plus ingrat, mais encore le plus insensé pour y vouloir faire des portraits satiriques et plus insensé pour y vouloir faire des portraits insolents. J'ai l'honneur de la seule pensée, d'un seul dessein. Plus on lira cet ouvrage, plus on verra que j'ai voulu dire tout sans peindre personne de suite. Quoi qu'il en soit, on peut dire que Madame de Stael, que le livre Télémaque était alors une action courageuse. Quant à la forme, on y retrouve partout l'inspiration des plus grands génies de la Grèce et de Rome, l'inspiration d'Homère, de Sophocle et de Platon. Oui, même, on peut rajouter, de Xénophon, de Virgile. Mais quoique la plus antiquité paraisse avoir été moissonnée tout entière pour composer le Télémaque, il reste à l'auteur quelques gloires d'invention, sans compter ce qu'il y a de créateur dans l'imitation de beauté étrangère inimitable avant et après Fénelon. Voilà, alors on va laisser, c'est pareil comme les troubadours, on va laisser Fénelon se reposer en paix, si je puis dire, le château de Fénelon, d'ailleurs, qui se trouve à la limite du Quercy et de la Dordogne, mais ma foi, peut se visite, c'est intéressant, parce que je crois qu'il est très bien agencé. Et puis moi, écoutez, je vous donne certainement rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, au revoir et n'ayez pas trop chaud.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.